LPM. La voix est libre.
OK, un sujet un peu plus sérieux.
On ne rira pas cette fois-ci.
Non, on ne rira pas, mais il faut prendre le temps de le souligner. C'est la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz aujourd'hui.
Il y a donc 75 ans aujourd'hui, les troupes russes qui déferlaient en direction de l'Allemagne sont tombées en traversant la Pologne sur Auschwitz, qui est une usine de la mort.
Oui.
Il y a 1 million de personnes qui ont été tués là, assassinés par des chambres à gaz et brûlés dans des fours crématoires. Et là, aujourd'hui, c'est semble-t-il, l'événement international le plus important en termes de présence de chefs d'État dans l'histoire d'Israël. Vous avez les 4 grands alliés qui sont là, les alliés de la Deuxième Guerre mondiale, France, Angleterre, États-Unis...
Et Russie. Oui.
Vous avez... Le président de la Pologne n'est pas là, et ça demeure... En tout cas, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, parce qu'il y a quelque chose comme un peu d'antisémitisme qui refait surface en Pologne, et...
C'est très étrange, là. Le camp est en Pologne, puis le chef de l'État polonais n'est pas là.
Il n'est pas là, non. Effectivement, il n'est pas là. Alors, Auschwitz, c'est l'aboutissement d'une politique mise en place par les Allemands en 1942 d'élimination complète de la race, comme ils l'appelaient, juive. Et Auschwitz, c'est devenu le summum parce que ce qui est totalement renversant dans cette histoire de l'Holocauste et de Auschwitz en particulier, c'est que les Allemands étaient, avant la guerre, quand on était en paix, un des pays industrieux les mieux organisés au plan manufacturier. C'était des grands fabricants de biens et tout ça. Et soudainement, ils ont mis toute cette expertise-là, toute l'expertise au complet, la mécanique, tout ce que tu veux.
La logistique.
Oui, au service de la mort.
Oui.
Et ils ont donné la mort à des gens... Écoute, 1 million de personnes. Il y a quand même des survivants qui en sont ressortis, des gens qui... sont parfaitement, totalement renversants. Par exemple, Elie Wiesel, qui est mort il y a quelques années, est un survivant d'Auschwitz. Primo Levi, le très grand écrivain italien, qui a écrit un chef-d'œuvre, d'ailleurs, sur Auschwitz, qui est en fait les mémoires, en quelque sorte, de Primo Levi pendant qu'il était en détention. Un livre qui s'appelle « Si c'était un homme ». Ceux que ça intéresse, vous devriez le lire. Vous avez aussi d'autres œuvres que j'ai envie de conseiller aux gens qui veulent comprendre, parce que tu comprends ce que les Juifs du monde entier disent, et je les appuie complètement, c'est que la pire affaire qui pourrait arriver, c'est qu'on oublie l'Holocauste, ou qu'avec le temps qui passe, on le banalise, ou qu'on dise que ça ne peut pas se reproduire. On a un devoir de mémoire. Vraiment, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier
on
ça.
On l'a d'autant plus, Luc, que tu y as fait référence. Mais il y a un peu partout dans le monde, y compris chez nous, malheureusement, des manifestations d'antisémitisme qu'on croyait à jamais disparu. On s'était dit, après l'Holocauste, on s'est dit, là, l'antisémitisme, là,
c'est fini,
ça ouais. se peut pas. Là, ouais. que, ouais. Et malheureusement, il y a
France,
des manifestations, mais aux États-Unis. Là,
aux États-Unis
y a,
aussi.
Il y a eu des cimetières juifs ici là, où les pierres tombales ont été renversées. Là, c'est arrivé. Là, alors, il y en a encore de ça.
Il y en a encore de ça, mais je souligne la France parce que présentement, il y a comme une migration massive, assez massive des Juifs de France vers Israël. Ils sont rendus qu'ils sont près de 400 000 qui vivent à Tel Aviv.
400 000 Juifs de France?
Oui.
OK, mais... d'immigration là, sur les dernières décennies.
Sur les dernières 20 ans, à peu près.
Ouais.
Quand il y a eu les fameux attentats de la rue des Rosiers là, dans le Marais, quand ils ont été dans l'espèce de petit quartier juif du Marais, il y en a beaucoup qui sont partis. Quand il y a eu les attentats...
Puis Charlie Hebdo aussi, rappelle-toi.
Alors, moi, je veux recommander aux gens qui veulent mieux comprendre, mieux savoir... peut-être quelques trucs. J'ai mentionné le livre de Primo Levi. Je mentionne le chef-d'œuvre de Jonathan Little, Les Bienveillantes. Littéralement un chef-d'œuvre, si vous voulez comprendre la psychologie malade qu'il y avait derrière l'Holocauste.
Les Bienveillantes?
Les Bienveillantes, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et aussi un autre chef-d'œuvre de quelqu'un qui est décédé il y a 2 ou 3 ans, Claude Lanzmann, le grand réalisateur français qui a fait un documentaire intitulé Shoah, qui est le nom hébreu qu'on donne à l'Holocauste.
Oui.
Shoah est un film documentaire qui dure 9 heures. Okay, 9 heures.
Avec des témoignages de...
C'est un drôle de documentaire, c'est qu'au lieu d'aller prendre des images d'archives qu'on a tous vues à un moment donné, tout ça, il fait témoigner un par derrière l'autre des gens. Par exemple, le conducteur de train qui amenait les gens vers le four crématoire. Mmh. Et là, il fait parler, puis il essaye pas de le bousculer. Alors, racontez-nous, là, comment saviez-vous qu'est-ce que c'était la marchandise que vous aviez? Oui. Ah, puis je me souviens, il y en avait un dans ça qui disait, oui, oui, ben moi, je l'ai bien su parce que j'entendais les gens qui parlaient le juif. C'est, évidemment, il faisait référence au yiddish, qui était la langue des juifs ashkénazes d'Europe de l'Est. Alors, on peut pas oublier l'Holocauste, on peut pas oublier... ce 75e anniversaire, puis, et surtout, je voulais le souligner aussi, Yad Vashem, tu me disais que tu y as été, moi j'y ai été l'été dernier. Yad Vashem, c'est le mémorial à l'Holocauste construit en Israël par l'architecte Moïse Safdi, originaire de Montréal, c'est lui qui a fait Habitat 67, c'est lui qui a fait l'aile sud du Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est lui qui a fait le Musée des Beaux-Arts à Ottawa, un très grand architecte, et Yad Vashem est probablement une des expériences les plus émouvantes que j'ai jamais connues. Quand tu es dans le mémorial lui-même, c'est incroyablement saisissant. Mais il y a un point donné, vraiment, je n'avais jamais eu un sentiment comme celui-là, ce qu'on appelle le mémorial des enfants. Quand on ouvre la porte de ça, on se retrouve dans une espèce de noirceur tellement forte. Là. C'est dur d'imaginer plus noir. Là. Tu ne te vois pas les doigts, tu ne vois rien. Puis tu vois juste comme des lumières. Puis tu entends des bruits d'enfants qui pleurent, qui crient après leurs parents. Puis tu entends des clôtures qui ferment. Puis, écoute, ça dure. Ben, tu peux rester aussi longtemps que tu veux, mais moi, je te le dis, là, au bout de 30 secondes, j'étais plus capable. Je tremblais, comprends-tu? Parce qu'oublie pas qu'à Auschwitz, là, quand le train arrivait, là, on prenait les travailleurs aptes les gens aptes au travail, les hommes aptes au travail, on les séparait, puis on envoyait les femmes, les enfants, des bébés, 1 an, 6 mois, 3 ans, les vieillards.
À la chambre.
Bon, ben, eux autres s'en allaient directement à la chambre à gaz, puis les autres, ben, il y en avait pour à peu près 3-4 mois à se faire torturer au travail à coups de fouet. Et puis voilà, ça s'est terminé quand les Russes sont arrivés. Mais déjà, quand les Russes sont arrivés, les Allemands avaient compris que c'était la fin. Alors, ils avaient commencé à se sauver. Ils se sauvaient avec les derniers prisonniers qui pouvaient marcher. Ils les ont fait marcher dans la neige nu-pieds.
Pour les amener dans un autre camp, d'ailleurs, pour certains d'entre eux. Il y en a plusieurs qui sont morts en chemin, d'ailleurs.
Ben, la plupart sont morts en chemin. Alors, c'est une des plus grandes tragédies de l'histoire de la civilisation. Mm-hmm. C'est pas un sujet joli. C'est même un des pires sujets qu'on peut aborder. Mais moi, j'y tenais parce que je pense que c'est peut-être une des plus grandes tragédies de toute l'histoire de la civilisation. Il faut toujours s'en rappeler.
De l'histoire humaine. De l'histoire humaine.
Et voilà, quoi, je tenais
À le souligner. Voilà. Alors, on a une pensée, évidemment...
Et surtout, pas d'antisémitisme. Arrêtez ça, j'en entends des fois. Ça part de tout petit truc, là. Je me souviens quand je jouais au Monopoly avec ma mère qui... En fait, qui était même assez érudite pour tout ce qui concernait l'Holocauste et tout ça. Mais on jouait au Monopoly, là, puis si je faisais un coup qu'elle n'avait pas vu venir, elle disait « Ah là, tu fais ton petit juif! » Ça, c'est pas de l'antisémitisme, mais ça part de... c'est toutes des petites affaires comme ça. Soyons prudents. Souvenons-nous que c'est un peuple extraordinaire qui a beaucoup apporté à notre civilisation. Au plan de la science, au plan de la littérature, au plan de la musique, à tout niveau. Alors... C'est un grand peuple, et puis disons-leur pour toujours, je serai de votre bord si jamais le trouble prend.
Oui, et on n'oubliera pas, on va s'arrêter là-dessus, et on reprend sur un autre sujet, dans un tout autre registre, dans un instant.